Bonsoir. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Environ 20 personnes, dont 6 enfants, sont mortes dans une nouvelle attaque lundi 15 novembre des miliciens de la FPIC Chinia Kidima. Celle-ci a eu lieu dans le village Chabusiku, environ 20 km au nord de Bunia, dans la province de l'Ituri. L'armée est intervenue juste après cette attaque et a réussi à déloger ces miliciens. Pendant ce temps, au nord Kivu, c'est au moins 60 civils qui ont été tués par les EDF dans la nuit de jeudi à vendredi dernier lors de l'attaque du village de Kisunga dans le territoire de Beni. Selon la société civile de la chefferie de Bachou qui a livré l'information, parmi les victimes se trouve une trentaine de civils qui étaient pris en otage par les assaillants pour transporter des biens pillés pendant cette attaque. Quelle analyse faire de ces massacres à répétition dans ces deux provinces malgré l'état de siège et que faut-il pour renforcer la sécurité des civils dans cette partie du pays? Nous en parlons ce soir avec Maître Juvenal Mounoubomoubi, député national élu de Walikale. En Nord Kivu, il est membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Maître Juvenal Mounoubou, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Edgar Matesso, premier vice-président de la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu. Edgar Matesso, bonsoir.
Bonsoir Madame, bonsoir à tous les auditeurs et aux co-débatteurs.
Et le professeur Chobert Agenonga, professeur à l'université de Kisangani, spécialiste dans le domaine des études de sécurité, des géopolitiques et des sociologies militaires. Professeur Agenonga, bonsoir.
Bonsoir Madame, bonsoir à tous.
Vos réactions, nous les avons reçues, c'est les cas notamment de celles de Claude Mugenyi. L'état de siège avait pour mission d'imposer la paix dans ces deux provinces, Nord Kivu et Ituri, mais la réalité est tellement différente et la population meurt tous les jours. Pour les cas de l'Ituri, l'ennemi est bien connu et bien localisé. Pourquoi ne pas lancer l'offensive contre ces groupes armés et les anéantir une fois pour toutes? Chico Bassa de Kinshasa, nous devons comprendre que l'insécurité dans cette partie du pays a plusieurs tête dont certains groupes miliciens sont dans les conflits ethniques et d'autres sont formés et soutenus par les pays voisins et les anciens chefs rebelles. Il serait mieux que le gouvernement utilise la voie de la sagesse en convoquant le dialogue. À Beni, dans la province du Nord Kivu, vous nous suivez sous la 92.0 ou la 92.3. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
En Ituri, 20 personnes, dont 6 enfants, sont mortes dans une nouvelle attaque lundi d'un groupe de miliciens de la Force patriotique et intégrationniste du Congo, FPIC en sigle, au village Chabusiku, à environ 20 km au nord de Bunia. Des sources concordantes dans la société civile indiquent que les fouilles se poursuivent pour identifier d'autres victimes. Cela après l'intervention de l'armée qui a réussi à déloger ces miliciens. Pendant ce temps, un mouvement massif de la population est observé dans la zone. Ézéchiel Mouzalia pour le reportage.
Ces miliciens de la FPIC se sont introduits vers 4 heures du matin de ce lundi dans la localité de Chabusiku en tirant plusieurs coups de feu. Surpris par des tirs nourris, c'était la débandade totale dans ces villages. 3 personnes ont été atteintes par balles et sont mortes le matin, affirme la société civile locale. Ces miliciens ont également incendié une structure sanitaire. Alertés, les FARDC sont intervenus pour traquer ces hors-la-loi. 15 autres corps ont été découverts après la calmie observée dans cette entité, déclarent les notabilités et acteurs de la société civile locale. Parmi les victimes, il y a 4 enfants de moins de 5 ans dont les corps gisent encore au sol. Le porte-parole de l'armée en Ituri n'a pas encore confirmé ce bilan. Cette attaque a entraîné le déplacement massif de presque toute la population vers les localités de Rwampara et de Chari à la périphérie de la ville de Bunia. Pour rappel, ce groupe armé FPIC a également tué 3 personnes et pillé plusieurs biens la semaine dernière au village de Mazangina. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Rendons-nous à Beni, au Nord Kivu. vous le bilan de l'attaque vendredi dernier du village de Kisunga dans le territoire de Beni, fait état d'au moins 60 civils tués par les EDF, chiffre donné par la société civile de la chefferie de Bachou. Parmi les victimes se trouvent une trentaine de civils qui étaient pris en otage par les assaillants pour transporter les biens pillés pendant l'attaque. Cette structure citoyenne parle également des 15 maisons et le centre de santé de Kisunga incendié. D'après la même source, depuis samedi, le village de Kisunga s'est vidé de ses habitants. Cependant, l'armée ne confirme pas encore ces chiffres. Marc Marot pour les détails.
L'attaque de la nuit du jeudi au vendredi dernier dans le village Kisunga a fait un bilan lourd de plus ou moins 60 morts, en plus de 6 autres qui ont été tués lors de la dite attaque, comme le dit ici Tongo Kamala, le premier rapporteur de la société civile en chefferie de Bachou.
Il y a certains agriculteurs qui confirment déjà la présence de ces corps et nous pensons qu'il serait des personnes qui seraient prises en otage au niveau des Kisunga, qui seraient déjà tirées dans les cabanes où l'ennemi a pris fuite. Mais également, par rapport à cette situation, si au pays de terme et des bilans, nous prenons déjà la structure sanitaire effantillée, 3 blocs, mais également, nous comptons au moins 15 maisons qui ont été effantillées, et c'est déjà un grand problème qui s'observe dans la zone de Kisunga.
L'armée, dont la base se situe à 5 km du village Kisunga, est vite intervenue pour limiter les dégâts, nous a confirmé Radio Kapi, son porte-parole dans la région. Le capitaine Anthony Malouchaï a également confirmé que l'armée s'est lancée à la trousse de l'ennemi qui avait pris la direction de Graben où la population de Bachou pratique l'agriculture. Ce mercredi matin, nous venons de l'apprendre que 6 otages ont été libérés de main des EDF après la poursuite et pression de l'armée. Mais la société civile de la chefferie de Bachou nous indique que le village s'est vidé de sa population depuis le samedi dernier. La population a pris la direction des localités situées vers la partie sud de la chefferie et même en ville de Boutembo. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Maître Juvenal Mounoubo-Moubi, je rappelle que vous êtes député national élu de Walikale au Nord Kivu. Vous êtes membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, 6 mois déjà depuis l'instauration de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, état de siège qui avait pour mission d'imposer la paix dans ces deux provinces. Malheureusement, nous assistons tous les jours au massacre des populations civiles. Maître Mounoubi, comment vous analysez cette situation des massacres à répétition dans ces deux provinces malgré l'état des sièges?
Merci beaucoup madame pour l'invitation et salutations à tous les co-débatteurs et encore une fois aux auditeurs des Radio Okapi. La réalité est que la situation est très préoccupante à l'est, hein, dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'est très préoccupant, pourquoi? Parce qu'il y a des massacres quasiment tous les jours. Et donc, en tant que citoyen tout d'abord, avant même d'être député, je suis touché par ce qui se passe. Et puis, ce n'est pas simplement les Congolais originaires de l'Est, c'est tous les Congolais qui sont touchés par ce qui se passe. Et je peux aussi vous témoigner que les institutions ne restent pas insensibles face à cette situation. Même si nous travaillons ici à 2000 kilomètres des zones de conflit, il faut savoir et il faut voir la mobilisation et les débats qu'il y a autour de cette question pour que la paix soit ramener le plus rapidement possible. Et donc, pour qualifier la situation, en tout cas, je la qualifie et la considère dans toute sa gravité. C'est une situation assez grave et ça demande une concentration nationale et une mobilisation nationale. Raison pour laquelle il y a eu des mesures assez fortes comme l'état des sièges. C'est vrai, il y a un débat actuellement, est-ce qu'il faut y mettre fin, mais le problème est que ceux qui veulent qu'on mette fin à l'état de siège ne sont pas en mesure de proposer des alternatives. Je pense par contre qu'il faut appliquer les recommandations pertinentes qui ont découlé de l'évaluation de cet état de siège par le Parlement, par la Commission spécialisée de défense et sécurité. Et parmi ces recommandations, il y a le changement de la chaîne de commandement, il faut donner aux militaires la ration, les soldes régulièrement. Il faut également des équipements modernes. Moi, je crois qu'il y a tout un tas de recommandations. Si on les applique, je crois, ça pourrait nous aider à ramener la paix. Et aujourd'hui, les députés élus au Nord Kivu et au Sud Kivu, en tout cas les deux caucus, rencontrent le chef de l'État cet après-midi pour échanger justement sur cette situation. Et donc, la situation, elle est assez grave, elle est grave. Et pour ça, je présente mes condoléances les plus sincères aux familles qui perdent chaque jour des êtres chers. Alors nous restons mobilisés, nous restons déterminés. Et ça, je peux rassurer la population. En tout cas, chacun de nous essaie de voir dans quelle mesure apporter sa contribution à la paix.
Maître Menoubo, vous avez parlé des recommandations de la Commission Défense et Sécurité. Toutes ces recommandations proposées par cette commission ont déjà été recommandées plusieurs fois, mais on n'a pas vu de changement.
Oui, mais au fait, il y a des recommandations qui, c'est vrai, c'est pas la première fois qu'on les formule. C'est vrai, il y avait, par exemple, l'ancien bureau de la commission de défense dont j'étais rapporteur. Je me rappelle que nous avons formulé pas mal de recommandations. Et puis, c'est arrivé un nouveau bureau, hein, parce qu'il fallait tout reconfigurer à l'Union sacrée. Eh bien, ce n'est pas mal aussi qu'on adresse des recommandations avec la nouvelle donne de l'Union sacrée. Et donc, l'essentiel, qu'on ait adressé de recommandations dans le passé, qu'on adresse des recommandations maintenant, l'essentiel, il faut maintenant que la paix arrive.
Mais le problème, c'est que ce sont les mêmes recommandations, rien n'a changé.
Oui, mais on ne va pas inventer la roue, quoi. Ce qui a toujours manqué, c'est la volonté politique, vous savez. Des recettes pour amener la paix, ne pensez pas qu'il y a des solutions ou des pistes de solutions qui tomberont du ciel. Ce sont les mêmes idées. Des bonnes idées, il y en a, mais il faut de la volonté politique. Et nous ne cessons chaque fois de réclamer justement cette volonté politique.
Cette volonté doit venir de qui ?
À toute occasion, nous rappelons que cela est nécessaire pour arriver à des résultats.
Alors, cette volonté politique doit venir de qui ?
Alors, la volonté politique, elle est gouvernementale, non ? C'est le gouvernement qui a l'action pour amener la paix. C'est une tâche régalienne, hein ? Donc, c'est le gouvernement. Donc, il y a des ministres en charge du secteur. C'est l'exécutif, hein, à tous les niveaux, là, la présidence de la République, le gouvernement, c'est aussi les parlements. Parlements qui doivent mobiliser des moyens à travers le budget de l'État.
Peut-on donc, dire que jusqu'à ce jour...
Les institutions doivent afficher une volonté politique. Donc ici, nous n'attendons pas seulement la volonté d'une seule personne. Hein. Ce n'est pas la seule volonté du chef de l'État, mais c'est la volonté politique qui est en réalité la somme de toutes les bonnes volontés.
Est-ce qu'on peut conclure que jusqu'à ce jour, cette volonté politique ne s'est pas encore fait sentir?
Peut-être qu'elle n'est pas encore suffisante, vous savez. Hein. S'il y avait zéro volonté politique, le pays allait déjà imploser. Vous savez que la situation qui se passe à l'Est est assez grave, hein. C'est très grave. Et donc, s'il n'y avait pas un minimum de volonté politique, ce pays n'existerait plus sur la carte. Et s'il n'y avait pas une vigilance citoyenne qu'il y a à l'est du Congo, eh bien, ce pays serait déjà balkanisé, comme on dit. Et donc, il ne faut pas minimiser les efforts qui sont déployés, mais il en faut davantage. C'est comme ça qu'il faut appréhender la question.
Maître Juvenal Monoubo, vous avez évoqué tout à l'heure ce débat autour de l'état des sièges. Faut-il y mettre fin ou bien il faut poursuivre avec? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'il faut maintenir cet état des sièges dans les deux provinces jusqu'à ce que la situation se rétablisse, la situation sécuritaire?
Moi, je crois qu'en le maintenant, il faut réorganiser la situation. Donc, il faut réorganiser l'armée. Il faut penser aux effectifs. Il faut penser à leur déploiement, à leur affectation. Il faut savoir qui sont les commandants à la tête des unités. Est-ce que ce ne sont pas encore des personnes qui mélangent leur travail avec le business? Et évidemment, il faut des équipements modernes aussi. Et ça demande énormément de moyens. Il y a ceux qui estiment qu'il faudrait réduire les trains de vie des institutions. Eh bien, c'est une opinion. C'est une opinion de certains acteurs politiques. Mais moi, je pense qu'il faut creuser davantage. Parce que l'armée, ça demande quand même assez de moyens. Les équipements militaires, ça coûte très cher. Et évidemment, il faut des moyens. Il faut la ration de militaires. Il faut les soldes de militaires. Il faut des équipements modernes. Et tout ça, il faut des investissements au sein de l'armée. Nous sommes dans une session budgétaire. Nous allons essayer de voir qu'est-ce qu'il faut. Et effectivement, pour voluminer les budgets de la défense.
En parlant des
guerres qu'il faut faire, évidemment, il faut savoir les faire, quoi. Il faudrait pas que ça soit déséquilibré. Et puis, on ne doit pas aussi se contenter trop d'un budget de 10 milliards de dollars. Ce pays a d'énormes potentialités, mais il faut davantage du courage pour lutter contre le coulage des recettes, pour lutter contre l'évasion fiscale, pour lutter contre la fraude et les détournements. Il faut davantage de courage et de volonté politique pour permettre à l'État de se doter d'un budget conséquent. Et donc le Congo ne mérite pas, par exemple, un budget autour de 10 milliards de dollars. Il en faut davantage. L'Angola en a plus que nous. Et l'armée angolaise a un budget beaucoup plus élevé que la nôtre.
Maître Juvenal Monoubo, peut-on parler des efforts du gouvernement à pouvoir restaurer la paix dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri lorsque on alloue à la défense 3,8% du budget
S'il n'y avait pas d'effort, minime soit-il, eh bien, il y a une semaine, les M23 seraient à Goma. S'il n'y avait pas d'effort, si l'effort était zéro à ce niveau-là. S'il n'y avait pas d'effort, l'attaque qui a eu lieu hier, eh bien, c'est peut-être Bounia qui serait déjà entre les mains de rebelles, pleinement. Et donc, il y a des efforts, mais je pense qu'il faut rester dans une approche tout à fait constructive. Il en faut davantage. Il en faut davantage. Je suis tout à fait d'accord que les résultats sont jusqu'à présent minces, parce qu'il faut dire la vérité, mais il en faut davantage. Alors, et il faut savoir comment mobiliser le moyen. C'est ça où réside la question. Et qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que simplement la réduction du train de vie des institutions suffirait-elle à permettre au Congo d'avoir un budget de la défense conséquent pour faire face à cette multitude de groupes armés qu'il y a à l'Est? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir l'argent qui échappe à la caisse de l'État dans les mines, les hydrocarbures, dans les secteurs porteurs de croissance? Eh bien, il faut explorer toutes les possibilités. Donc moi, je ne voudrais pas mener une réflexion tout à fait limitée. Il faut explorer toutes les possibilités pour permettre justement à la RDC d'accroître son budget de la défense.
Merci.
Et donc moi je suis disposé, et nous sommes disposés au sein de la commission de défense, à réfléchir et avec les membres du gouvernement et avec la présidence pour y arriver.
Edgar Matesso, premier vice-président de la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu, comment vous analysez ces massacres à répétition dans ces deux provinces malgré l'instauration de l'état de siège?
Oui, vous l'avez bien dit, madame, malgré l'instauration de l'état de siège. Vous le savez, la population avait trop confiance à son armée et pensait qu'avec l'état de siège, on aura des affrontements chaque jour pour neutraliser l'ennemi et que la guerre finirait du coup. Je voudrais un peu vous décrire la situation telle qu'elle s'était passée au niveau de Kisunga la nuit de jeudi à vendredi.
On a suivi ça dans le reportage, oui. Maître Edgar Matesso. Si vous voulez revenir sur ça, j'aimerais résumer en peu de mots.
Oui, oui. Ça a été dit, en fait, je voudrais montrer à quel niveau la population a eu certaines déceptions. Comme vous l'avez dit, Kisunga se trouve à 5 km d'une position militaire. Et c'est un village qui se situe entre deux positions militaires. La position militaire de Kirindera et la position militaire de Karuruma, plus ou moins 8 kilomètres. Mais l'ennemi, après avoir commis le forfait, il s'est dirigé dans le Graben, c'est-à-dire vers la position de Karuruma, mais avec des otages, avec même les biens qui ont été pillés. Mais il n'y a pas eu de riposte appropriée pour essayer d'empêcher cet ennemi à progresser avec ses otages. Et à plus de ses otages, il y avait d'autres cultivateurs qui étaient dans des maisons, dans des cases, dans leurs champs et qui ont ressenti les coups de balle la nuit et qui pensaient qu'il fallait fuir le matin. Malheureusement, ils se sont retrouvés dans les filets de l'ennemi. Voilà pourquoi les bilans pourraient augmenter de 38 à plus de 60 victimes, tout simplement parce que l'ennemi allait en train de ramasser d'autres civils le long du chemin. Et aujourd'hui, dans le village, dans la vallée de Kabasimwa, on continue à retrouver des victimes. Malheureusement, encore une fois, ce sont les civils qui sont en train de chercher les corps des personnes tuées sans l'accompagnement de l'armée. J'étais en train de dire donc, la population avait trop de confiance à son armée. Malheureusement, avec l'avènement de l'état de siège, on peut compter au bout du doigt, d'ailleurs s'il y en a, le nombre d'offensives lancées par notre armée. Et pourtant, nous, on pensait que chaque matin, il y aurait offensive contre l'ennemi pour le neutraliser. Et à ce niveau ici, nous sommes en train de nous poser la question pourquoi les cris d'alarme de la population ne sont pas pris en compte. C'est depuis avant l'état de siège, la population ne cessait de demander que l'on puisse relever certains militaires qui sont soupçonnés ou alors qui ont longtemps duré dans la région et qui étaient recrutés à partir des anciennes rébellions. Malheureusement, cette demande n'a jamais été exaucée. Et pourtant, sur les plans sécuritaires, même une simple rumeur devrait suffire pour que l'on prenne action, et ne serait-ce que pour enquêter sur des allégations qui sont en train d'être poussées. Et là, c'est au niveau militaire. Là aussi, il faut souligner qu'il y a beaucoup de communications du côté militaire qui semblent rassurer la population, mais malheureusement, cette population qui a été rassurée ne trouve pas protection du côté militaire. Au contraire, cette population ne cesse d'être incriminée, d'être à la base de son propre malheur.
Edgar Matesso, ces massacres à répétition des populations civiles, est-ce qu'on peut dire que ces miliciens essaient de défier les FARDC?
Bon, en fait, ils ont compris qu'ils ne sont pas poursuivis. Que ça soit du côté des ADF, que ça soit du côté des autres miliciens, et vous avez constaté que toutes les fois qu'on parle d'attaque, ce sont les positions des civils, des militaires, soit des positions des civils qui sont attaquées, mais rarement on parle de l'attaque de nos militaires contre les positions de ces des assaillants.
On a suivi le porte-parole de Sokola 1 qui a affirmé que l'armée a mené beaucoup d'offensives, beaucoup de miliciens ont été neutralisées, alors que vous nous dites le contraire.
Et s'il y avait multiplication d'offensives, d'où viendraient alors ceux qui sont en train de venir tuer les civils dans les cités, dans les villages? Si vous considérez par exemple la chefferie des Bâches, il n'y a pas une forêt, c'est une savane. On peut même voir à 100 mètres, même à 2 kilomètres, des gens qui sont en train de se déplacer en masse. Mais s'il y avait des offensives, alors il n'y aurait plus des miliciens ou des ADF qui seraient en train de tuer régulièrement au quotidien cette population. C'est pourquoi j'étais en train de dire que cette communication de nos forces armées devrait être vérifié du côté du résultat et non plutôt rester simplement médiatique. Ici, on risque de comparer les actions qui sont en train d'être menées comme quelqu'un qui prend un gobelet pour décharger tout un fleuve, tout un océan et penser qu'il est fatigué parce qu'il a travaillé à longueur de journée alors qu'en réalité, il n'a rien fait. Donc, notre armée devrait faire mieux que ce qu'elle est en train de faire parce que jusqu'à présent, en tout cas, la population ne s'est pas évaluée positivement les actions menées jusqu'à présent.
Nous apprenons que la population ne rend pas non plus service à l'armée parce que certains miliciens se confondent aux populations civiles. Certains ont tissé carrément des liens avec la population civile, sont protégés par la population. C'est difficile de pouvoir mettre fin à cette situation d'insécurité lorsque la population protège ses miliciens.
Je répondrais mieux à cette question si nous étions dans ce débat avec une autorité militaire parce que elle confirmerait avec moi que toutes les fois qu'on a arrêté des miliciens, toutes les fois qu'on a arrêté des collabos, toutes les fois qu'on a arrêté des suspects, ce n'est pas l'effort seul de nos services de sécurité. C'est toujours la population qui dénonce, c'est toujours la population qui oriente, c'est toujours la population qui canalise les informations. Malheureusement, quand nous le disons comme ça, la population civile devient encore une fois exposée parce que les assaillants comprennent que ce sont les civils qui sont en train de faciliter ces arrestations, qui sont en train de faciliter le démantèlement de leur réseau. Mais en réalité, la population est en train de fournir des efforts louables pour permettre à ce que les opérations puissent réussir, mais malheureusement, en retour, la protection n'est pas encore effective.
Professeur Chaubert Agenonga, vous êtes professeur à l'université de Kisangani, spécialiste dans les domaines des études de sécurité, de géopolitique et de sociologie militaire. Votre lecture de ces massacres à répétition dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, malgré l'instauration de l'état de siège?
Ben évidemment, le constat que l'on fait, c'est que l'état de siège devrait se traduire en termes d'offensives foudroyantes, d'offensives et d'envergure contre les miliciens, lesquelles offensives n'ont pas malheureusement eu lieu. Et du coup, on constate que l'état de siège est plutôt devenu une véritable guerre médiatique. Alors, il faut comprendre un peu ce qui explique exactement la poursuite des violences et dans les deux provinces placées sous l'état de siège, le premier élément que je voudrais retenir, c'est la déficience à trois niveaux. Alors, le premier niveau, c'est au niveau des effectifs. Évidemment, lorsque vous allez sur le terrain, eh bien, vous allez constater qu'il y a des commandants de bataillon qui, en réalité, sont à la tête des effectifs des compagnies. Il y a même des commandants de compagnie qui sont, en réalité, à la tête des effectifs des pelotons. Donc, cette déficience d'effectifs crée, effectivement, ce que nous appelons un vide sécuritaire profitable à l'ennemi. Le deuxième niveau, c'est au niveau de la logistique. Donc, on constate que l'armée manque cruellement le moyen de projection et même de mobilité de troupes, ce qui limite extrêmement sa marge de manœuvre. Et au dernier niveau, c'est au niveau de la prise en charge. Vous savez, nombre de militaires qui sont déployés au front survivent grâce à des taxes illicites, des taxes illégales qu'ils ont imposées et lesquelles taxes doivent être payées par la pauvre population qui subit déjà les affres de violence. Alors, le deuxième facteur, c'est la mauvaise coordination des opérations. Et là, je voudrais dire clairement que, et en ce qui concerne le présumé ADEF, il n'y a même pas la moindre coordination des opérations entre les unités militaires déployées au Nord Kivu et celles qui sont en Ituri. Par conséquent, lorsque l'opération Sokola 1 frappe le présumé ADEF, ces derniers sont déversés sur l'Ituri. Et lorsque les unités de l'Ituri essayent d'intervenir, eh bien, on applique à une fragmentation de cette nébuleuse en plusieurs groupuscules. Et un autre problème au niveau de la coordination, c'est que l'état de siège a affaibli le commandement des troupes. Alors, dans le sens de l'ordonnance qui décrète l'état de siège, eh bien, l'opération militaire, le commandement des opérations est confié au gouverneur militaire. Alors que le commandant des troupes sur le terrain, c'est plutôt le commandant secteur. Et à cela, il y a une nouvelle unité qui vient de s'ajouter, c'est la garde républicaine. Donc finalement, on ne sait pas qui fait quoi sur le terrain. Donc le troisième élément d'analyse, c'est l'absence de renseignements exacts sur l'ennemi. L'impression qu'on a, c'est que nos militaires se battent face à des ennemis dont ils ne connaissent ni l'identité, ni même le bastion, encore moins le mode opératoire. Donc ce qui fait que aujourd'hui l'armée ne parvient absolument pas à être proactive, à engager des actions susceptibles, n'est-ce pas, de dissuader et de décourager les rebelles. Et enfin,
mais ça fait des années, professeur, que l'armée fait face à ces miliciens. On ne dira pas que l'armée n'a pas encore maîtrisé le mode opératoire de ces groupes rebelles. Et puis lorsque vous dites que l'ennemi n'est pas identifié, pour les cas de l'Ituri par exemple, des sources sur place nous renseignent que on connaît l'ennemi, on sait où est localisé l'ennemi, mais on ne comprend pas pourquoi l'armée ne mène pas des offensives contre ces groupes armés.
Alors, à ce niveau-là, je voudrais vous relever quand même un aspect important au niveau du renseignement. Vous savez, comme notre co-débatteur, membre de la société civile, vient de le dire tout à l'heure, on a affaire, ça je le précise, on a affaire à une guerre asymétrique. Donc, dans la guerre asymétrique, je le souligne, l'ennemi est difficilement identifiable. Dans le cas de l'Ituri, d'ailleurs, les miliciens sont dissimulés dans la population. Ce qui fait que, parfois, lorsque le militaire engage des frappes contre les miliciens, eh bien, le dernier prend route ensemble avec les civils. Ça, c'est tout à fait paradoxal. Et cela s'est traduit par l'absence de ce que nous appelons une approche civilo-militaire. Vous savez, nombre de fois, il y a eu des alertes de la part des civils, des alertes qui n'ont jamais été prises en compte. Donc, il y a une rupture, pour le moins, déconcertante entre les civils et les militaires. Et enfin, je voudrais, sur le dernier élément d'analyse que je voudrais ajouter, c'est l'absence des mécanismes de désarmement. Vous savez, lorsque les opérations étaient lancées, eh bien, l'armée devait s'attendre à ce que les militaires soient désarmés. désarmer de gré ou de force. Alors, si désarmement il y avait, la question que l'on doit se poser, qui est-ce qui va prendre en charge les militaires désarmés et qui est-ce qui va s'occuper de leur réinsertion? Et au regard de tout ce que je viens d'évoquer, aujourd'hui, je voudrais souligner le fait que à Ituri, les militaires ont engagé une négociation avec les rebelles de Codeco, ce qui contraste étrangement avec la mission de l'état de siège dont les objectifs sont clairement connus, la neutralisation des rebelles et la sécurisation des populations et de leurs biens.
Les auditeurs sont nombreux à nous appeler sur notre standard pour participer aussi à ce débat. Maître Juvenal Mounoubo, on va prendre pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis Bukavu, au sud Kivu.
Je suis Egide Sanzira Kalamon-Michel depuis la province du Sud Kivu, dans la ville de Bukavu. Depuis que les Congolais vivant dans la partie est du pays ont subi des tueries matin, midi, soir pour à l'insécurité, jusqu'à ce jour, le gouvernement n'a jamais maîtrisé ces rebelles qui tuent la population. On peut se rappeler de cet adage d'un notaire qui a dit que si les services de sécurité ne parviennent pas à identifier l'ennemi, c'est que l'ennemi est dans les services de sécurité. En fait, je ne dis pas que c'est réel, mais malgré les cris d'alarme, nous sommes toujours tués. Ce qui étonne, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, s'est installé dans les jours passés dans la même région, mais en vain. Et maintenant, on se pose la même question, à quand la cessation des tueries dans la partie est de la République démocratique du Congo? Cette question est loin de trouver des réponses. À mon avis, je pense qu'il faut installer définitivement l'armée, l'état-major de l'armée régulière de la République démocratique du Congo dans la région en proie de l'insécurité pour tenter de maîtriser la situation.
Maître Juvenal Mounoubo, seule une solution, installer définitivement l'état-major dans la région en proie à l'insécurité.
Oui, mais il y a déjà suffisamment de structures de l'armée, que ce soit dans le territoire de Beni, tout comme dans le territoire de l'Ituri. Mais par contre, je suis d'accord avec lui hein, quand il dit que si la solution n'est pas trouvée, c'est peut-être qu'il y a les vers dans le fruit, quelque chose comme ça. Donc, je crois qu'il faisait allusion aux complicités ou aux infiltrations.
Oui.
Et je crois qu'il a raison. Et il a raison. C'est une hypothèse qui se confirme de plus en plus, qu'au sein de l'armée, il y aurait peut-être certaines personnes qu'on n'a pas encore maîtrisées, qui seraient en train de ne pas servir la cause de la paix. Hein. Et il n'y a pas qu'au sein de l'armée. Hein. Il y en a aussi parmi les politiciens, ce qu'on appelle des tireurs de ficelles. Alors, il ne suffit pas seulement de dire quitter les groupes armés. Eh bien, c'est l'État qui détient les renseignements. Il revient aux autorités. Si c'est le président de l'Assemblée nationale qui a des informations des politiciens, députés ou non, impliqués dans ce qui se passe à l'Est, eh bien, il faut que l'auditorat militaire procède maintenant à des arrestations. Si c'est un acteur de la société civile ou un leader local ou un député ou un ancien ministre ou ancien ministre qui est impliqué dans ce qui se passe à l'Est, c'est le moment. Il faut maintenant qu'il y ait des arrestations phares, hein, qu'on sache que voilà, tel politicien est impliqué, on a mis la main sur lui, il est en prison, un procès a été ouvert. C'est comme ça, donc les autorités ne peuvent pas se plaindre. Ils doivent utiliser les renseignements, ils doivent utiliser la justice militaire pour accompagner les efforts du retour de la paix. Alors je voudrais ici préciser une chose importante, c'est que nous devons compter sur nos propres efforts. Même si la question, même si l'insécurité est grandissante, eh bien il faut garder un minimum de confiance à l'armée. Sans cela, ça va être difficile et nous risquons même de perdre ce pays. C'est vraiment important. Donc nous devons garder un peu de patriotisme. Donc nous devons continuer à soutenir nos forces armées. Alors il y a des acteurs politiques ici à Kinshasa, hein, des députés notamment, certains du Nord Kivu et même de l'Ituri, qui estiment que la solution, ça doit être l'arrivée des Ougandais, hein, c'est-à-dire de l'UPDF, l'armée ougandaise ici, pour mener des opérations ensemble avec l'armée congolaise ou l'arrivée de l'armée rwandaise. Alors moi, j'ai émis un point de vue tout à fait différent. J'estime que ce n'est pas la solution. Si l'Ouganda veut nous aider, eh bien, nous pouvons uniquement échanger des renseignements entre ses experts et nos experts. Et parce que l'Ouganda pourrait évidemment détenir des informations sur les ADF.
Si l'Ouganda veut
nous aider, eh bien, que les Rwandais nous livrent les informations sur les M23, par exemple. Mais engager ou accepter encore qu'il y ait des corps expéditionnaires rwandais ou ougandais entrent au Congo, je crois, c'est quand même avoir une courte mémoire, parce qu'on sait qu'ils étaient ici, on sait que au-delà des objectifs déclarés, ils se sont occupés d'autres choses, exploiter illégalement les minerais, jusqu'à se battre même dans la ville de Kisangani. Et donc, on ne doit pas être de courte mémoire. Moi, Je ne suis pas d'accord avec ce genre d'idées qui se développent de plus en plus ici à Kisangani. Kinshasa.
Edgar Matesso, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Jean-Paul, à partir de Kinshasa, Ngalié ma campagne. Ça fait très mal, s'il vous plaît. De l'autre côté, les élites continuent toujours de prolonger les siens. Mais sur terrain, les pauvres Congolais sont en train d'abord d'être tués par les ADF. Quel est alors l'impact de cet état de siège? Donc je donne raison aux élites de cette partie du pays qui ont refusé de prolonger de nouveau cet état de siège. Donc nous ne voyons rien d'abord de l'état de siège.
Edgar Matesso, réaction.
Oui, en fait, je suis en train de marier cette idée de notre auditeur Jean-Paul. En fait, la question même, l'honorable venait de l'insinuer lorsqu'il prenait pour la première fois la parole. Faut-il mettre fin à l'état de siège, oui ou non? En répondant à cette question, il faut d'abord se poser la question de savoir qu'est-ce que l'état de siège a fait de bon au nord Kivu à Ituri qu'on puisse soutenir pour continuer à maintenir cet état de siège. Et pourtant, au regard du nombre de victimes avant l'état de siège et pendant l'état de siège, on a comme l'impression que l'état de siège est venu comme pour exposer cette population qui attendait beaucoup de cet état de siège. Il y a lieu de mettre fin à cet état de siège et à penser à une alternative. C'est notamment, par exemple, l'article 63 où on pourrait demander à ce que l'on forme toute la population en renseignement, en maniement des armes et à tactique de guerre, de telle sorte que lorsque l'ennemi entre dans un village, c'est le village qui s'en occupe en attendant que l'armée vienne l'appuyer. Mais une proposition de ce genre ne passerait pas dans notre parlement, parce que sinon on aurait même déjà proposé une loi ou voté une loi qui délimite les attributions même de l'état de siège. Allez voir aujourd'hui comment les juridictions militaires sont débordées par des questions, des infractions qui devraient être gérées au niveau des juridictions civiles, mais comme ça relève du pénal, on les déploie du côté des juridictions militaires. Et pourtant, nos juridictions, on devrait définir pour les juridictions militaires sous état de siège, ne juger que les questions à rapport avec l'insécurité, par exemple. L'état de siège peut être arrêté et on redéfinit des mécanismes.
Professeur Chaubert, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Goma, au Nord Kivu.
Moïse Angi, depuis Goma, au Nord Kivu. La situation qui prévaut ici chez nous a démarré de plus en plus catastrophique et décevante. Nous avions cru qu'avec l'instauration de l'état de siège qui est et doit en Égypte être temporaire et exceptionnel, la situation allait changer. Hélas, les théories sont plus du jour le jour. Nous nous demandons ce qui manque à nos deux gouverneurs, au président et à la monition pour un complètement. Par ailleurs, propose et rappelle au chef de sa promesse d'ériger l'état-major général. Secondo, j'en appelle aux deux gouverneurs militaires de revoir leur stratégie militaire qui semble en vrai dire. Le peuple semble avoir perdu tout l'espoir. Nous en avons marre.
Excusez-nous pour la qualité de la ligne de cet auditeur, professeur Chaubert Aguenonga.
Évidemment, l'auditeur a raison de dresser un tableau fait reluisant de dynamique sécuritaire sous l'état de siège. Donc, de ce point, je suis parfaitement d'accord avec lui, mais en revanche, lorsqu'il propose à ce qu'on puisse déplacer l'état-major général pour l'implanter à l'est de la RDC, je crois que ça ne va pas apporter des solutions efficaces. En revanche, la solution efficace réside au niveau de la restructuration. Il faut un changement de fond en comble dans la chaîne de commandement parce que il y a certains officiers qui ont été nommés à la tête de plusieurs unités qui sont inefficaces, ils sont contre-performants. Mais aussi, et on ne peut pas gagner quand même la bataille sans moyens. La guerre est une entreprise budgétivore. Donc, il faudrait augmenter le moyen à nos forces armées pour le rendre efficace. Mais la prise en charge également, et ça manque à l'appel. Donc, faut améliorer la prise en charge des militaires. Mais enfin, j'étais en train de dire que la maîtrise de modus operandi semble faire défaut et simplement mot parce que on a comme l'impression que ce qui renforce la capacité de nuisance de l'ennemi réside au niveau de sa capacité à s'approvisionner en armes et en munitions. Donc du coup, il faut identifier toutes les lignes d'approvisionnement de l'ennemi en armes et en munitions et pour couper cette source d'approvisionnement. Et aussi, il faut identifier tous les complices de l'ennemi et le mettre hors d'état de nuire. Je termine peut-être par là. Et vous savez que certains groupes armés qui opèrent dans cette partie du pays ont des ramifications extérieures. Et pour apporter des solutions à une dynamique qui a des tentacules à l'extérieur du pays, il faut des efforts diplomatiques. Donc l'État congolais doit aussi jouer la carte d'un point de vue diplomatique.
Maître Juvenal Mounoubo, ce sera votre conclusion. Qu'est-ce qu'il faut pour renforcer la sécurité des civils dans cette partie du pays?
La solution que je privilégie, c'est d'abord la solution de feu. Donc il faut maintenir le feu, c'est-à-dire la solution militaire. Mais à part ça, il faut une approche globale. Donc il faut aussi des bonnes relations civilo-militaires. Il faut que les forces de sécurité et la population collaborent étroitement. Il faut une diplomatie régionale. Et savoir qu'est-ce qu'on gagne des voisins dans cette coopération. Et je le disais que nous pouvons nous limiter uniquement à l'échange des renseignements. Mais autre chose, il ne faudrait pas oublier les DDR. Vous savez, il y a des ex-combattants, des gens qui se sont rendus ou qui sont prêts à se rendre. Mais il n'y a pas un programme pour les recevoir et pour les réintégrer dans la vie civile.
C'est vrai, on en a même. Il n'y a pas de moyens non plus, selon ce que nous avons appris. Pas seulement de programme, mais aussi moyens.
Je vais terminer par là. Il ne faut pas oublier des territoires comme Walikale, par exemple, à Oussala, où il existe des groupes armés. Donc, il n'y a pas que les ADF. Il y a aussi d'autres foyers de tension qu'il faudrait essayer de... Il faut s'attaquer à ça, quoi. C'est comme au nord de Walikale, où les groupes, par exemple, Kabidon, qui livrent des combats fréquemment avec les groupes de Guidon. Et donc, des situations comme ça, il faut pas les laisser, parce que ça risque de rester comme des îlots d'insécurité, et ça va être difficile de les résoudre par la suite.
Merci, Maître Juvenal Mounoubo Moubi, député national élu de Walikale au Nord Kivu, membre de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Edgar Matesso, premier vice-président de la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu. Qu'est-ce que vous vous proposez pour renforcer la sécurité des civils dans cette partie du pays, l'Ituri, le Nord Kivu et même le Sud Kivu, où il y a eu dernièrement un massacre de la population, à peu près une trentaine de personnes dans le territoire de Mwenga.
Tout d'abord, il faut mettre fin à ces fameux états de siège qui ne continuent à exposer la population plutôt que de la protéger et définir des mécanismes appropriés pour mettre fin au massacre. Et de cette manière-là, il faut qu'on mobilise suffisamment de moyens. Le gouvernement dit qu'il n'y a pas de moyens. Ils le disent souvent, ils disent qu'il n'y a pas suffisamment de moyens. Allez voir comment le budget qui a été proposé à l'Assemblée, qui est à discussion pour le moment, lorsqu'on propose moins de 10% alloués aux efforts militaires pour mettre fin au massacre, alors que on sait mobiliser des moyens pour d'autres fins. Et qu'on essaie de voir comment négocier avec les autres forces multinationales ou bien multilatérales, avec les pays amis qui peuvent nous prêter main forte et ainsi essayer d'appuyer les pays. Et le Parlement devrait voter un budget approprié pour mettre fin à cela et mener des pressions contre les autorités, le gouvernement. Merci. Qui ne veut pas finalement agir. Et les chefs de l'État devraient mettre également, avec ce gouvernement, pression contre les Rwandais qui continuent à alimenter les groupes armés à l'est de notre pays. Et finalement, on pourrait arriver à déstabiliser justement cette nébuleuse ici où justement on arrive à mobiliser tout le monde de cette manière.
Merci Edgar Matesso, professeur Chobera Genunga, professeur à l'université de Kisangani, spécialiste dans le domaine des études de sécurité, géopolitique et de sociologie militaire. Votre conclusion?
Oui, le tas de siège a déjà révélé ses faiblesses. Du coup, il faut changer de paradigme évidemment. Et quelles sont les stratégies sur lesquels il faudrait se focaliser pour changer le paradigme? Il faut la restructuration des fonds en compte de l'unité de commandement, il faut le renforcement des moyens logistiques, des effectifs et certainement aussi de la prise en charge. Donc la collaboration civilo-militaire doit également détenir sa lettre de noblesse. Il faudrait et la promouvoir, il faudrait la renforcer. Et également, il faut mettre en place le mécanisme DDR, parce que et la finalité aussi des opérations, c'est d'obtenir le désarmement. Et pour y parvenir, évidemment, il faut qu'il y ait une structure qui puisse s'en occuper. La diplomatie détient également sa lettre de noblesse dans la région pour étouffer dans l'œuf toutes les menaces qui pourraient peser sur la RDC à partir en dehors de nos frontières.
Les
sources d'approvisionnement et en armes et en munitions des rebelles doivent être coupées, mais aussi des sanctions, parce que il faut pas qu'il y ait des officiers qui se comportent comme des électrons libres, qui peuvent détourner le fonds et qui peuvent évidemment aussi flirter avec les rebelles, parce qu'on a vu les rebelles disposer des uniformes de l'armée,
des armes,
des munitions, ce qui montre à un certain niveau qu'il y a une certaine complicité à laquelle il faut mettre fin.
Merci, professeur Chobert Hagenonga. Dialogue en congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe, Guimaté, Dona, Madimba, Martin, Sebujangwe, qui m'ont aidé à préparer cette émission. La mise en onde était assurée par Polydor Pasunga. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.